Notre invité est Dr Ibrahima Hatch. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la recherche de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale, président du comité scientifique de la Conférence régionale sur les changements climatiques et résilience de territoire qui se tient présentement à Dakar, 10, 11, 12 septembre. Quelles sont les manifestations des changements climatiques?
Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que le changement climatique est un vécu actuellement. Nous sommes en train de vivre le changement climatique. Il se manifeste de plusieurs façons. D'une part, on voit que du point de vue de la température augmente, la pluviométrie est erratique. Parfois, il pleut beaucoup, parfois il pleut moins. On voit les inondations et parfois il y a des poches de sécheresse. Donc toutes ces manifestations découlent de ce phénomène de changement climatique.
Parfois la mer qui est agitée, les vagues qui deviennent de plus en plus puissantes, tout cela, ce sont les changements climatiques.
Absolument. Et l'une des manifestations de cet impact sur la mer, ce sont nos côtes. Quand vous voyez la côte ouest de Dakar, Hambourg, vous voyez que le tourisme est fortement affecté du fait que l'érosion côtière souffre de ce changement climatique-là, effectivement.
On vient d'en avoir l'exemple avec à Bargny, une dizaine de maisons victimes de l'érosion côtière. Tout cela remet sur la table la question des changements climatiques.
Effectivement, et c'est ce qui explique d'ailleurs que IED ait commencé à travailler sur cette question pendant pratiquement 5 ans.
Pour IED, c'est Initiative Environnement et Développement
Afrique, oui. Qui est un think tank qui est basé ici à Dakar et qui a fait un travail de recherche sur changement climatique et résilience des terroirs pour voir un peu le lien entre le changement climatique et la résilience des terroirs. Et ces 3 jours de colloque sont une réponse par rapport à tout ce travail qui a été fait pour partager avec les différents experts les résultats de ces recherches-là.
Vous êtes en train de réfléchir sur les réponses au changement climatique. En tant que scientifique, quelles seraient les actions prioritaires pour faire face à ce phénomène?
Alors, le changement climatique, pour faire face, il y a des actions d'adaptation et il y a des actions d'atténuation. Par rapport aux actions d'adaptation, compte tenu des différents secteurs qui sont affectés, l'État, les parties prenantes, les décideurs, les populations doivent s'armer pour essayer de faire face, pour s'adapter, puisque certains des impacts, des effets des changements climatiques sont déjà là, il faut s'adapter. Dans le domaine agricole, l'une des mesures d'adaptation peut être de travailler sur des variétés culturales qui sont adaptées. Dans le domaine, par exemple, de l'érosion côtière, c'est faire en sorte de préserver un peu nos côtes pour un peu sauver le business du tourisme.
C'est les barrages érigés ou bien quoi d'autre?
Oui, il y a des méthodes qui sont mises en place, qui sont très coûteuses pour pouvoir arrêter un peu l'avancée de la mer. Travailler aussi sur les infrastructures. Mais encore plus important, c'est faire en sorte que les territoires et les communautés qui vivent dans ces territoires soient résilientes. C'est-à-dire qu'après un choc, non seulement qu'on puisse revenir à l'état initial, mais qu'on puisse pouvoir dépasser cet état initial en innovant et en pouvant faire face.
Et pourquoi nos territoires ont du mal à contenir les changements climatiques? Quel est le problème en réalité?
Alors, c'est vrai que nos territoires ont souvent des problèmes pour faire face. C'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, les transformations en cours du point de vue démographique. Vous savez que la population, que ce soit au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, ou même en Afrique subsaharienne, la population continue d'augmenter à un rythme très élevé.
Il y a un boom démographique.
Cette population, elle est jeune, ce qui veut dire qu'elle va continuer à augmenter dans les années à venir. Deuxièmement, et corollairement à cette augmentation de la population, il y a une urbanisation très rapide. Et qui dit urbanisation, dit regroupement de population avec des besoins de services assez important. Et donc, s'il y a un retard d'investissement pour faire face à cette augmentation de la population, nous allons faire face à ces problèmes, puisque vous avez des bidonvilles qui s'érigent, des métropoles qui se construisent. S'il n'y a pas un accompagnement en termes d'infrastructures,
en termes d'assainissement,
d'assainissement et de services delivery, il faut qu'il y ait des services d'eau, d'éducation, de santé,
pour faire face,
et d'assainissement. Si vous n'avez pas cela, la conséquence, c'est que vous avez la vulnérabilité qui va augmenter. Vous avez, disons, l'accès à l'eau devient problématique. L'accès à l'assainissement devient problématique. La conséquence, c'est des questions sanitaires, des questions de bien-être et des questions même de survie qui se posent. C'est pourquoi l'État, le gouvernement, mais aussi les autres parties prenantes doivent travailler à ce que les communautés qui se forment puissent être résilientes. Donc, les accompagner de sorte que le minimum de services puisse être à leur disposition et surtout qu'on puisse planifier. Parce que le gros problème, c'est qu'on ne planifie pas suffisamment. Regardez actuellement tout ce qui se passe au niveau des Niay. On est sûr aujourd'hui que la Niay qui est proche de Dakar va disparaître. Mais est-ce qu'il y a une planification pour que les populations qui vont s'installer là-bas s'installent de manière organisée pour pouvoir bénéficier d'infrastructures, que ce soit des infrastructures d'accès à l'eau, à l'électricité, etc.
Et pour ne pas gêner aussi les activités agricoles dans ces zones.
Exactement. Et une bonne partie de ces activités agricoles sont presque condamnées, alors que les Niay constituent un poumon du point de vue production agricole, pour Dakar notamment, pour les cultures maraîchères.
Est-ce qu'à un certain niveau, il n'y a pas un manque de contrôle concernant les installations? Souvent, les populations s'installent n'importe où. Toutes les portions du territoire sont vendues et construites. Finalement, l'eau n'a pas où aller et ça constitue un autre problème.
Effectivement, ça c'est un problème réel. Mais le vrai problème, c'est que on ne met pas l'aménagement du territoire au cœur de nos politiques publiques. Parce que vous ne pouvez pas travailler sur la durée et oublier que ce territoire-là, il est fini. C'est-à-dire qu'on est moins de 200 000 km². Donc ces 200 000 km² ne vont pas augmenter. Donc comment on peut aménager ces 200 000 km² en tenant compte du fait que juste en 50 ans, la population a été multipliée par 5. On était 3 millions vers les années 60. Aujourd'hui, on est presque à 15 millions dans le même territoire. Donc, les populations vont se regrouper, vont même s'accrouper, s'agenouiller autour d'une frange côtière où elles auront besoin de services d'eau, d'électricité. Elles vont exiger ces services d'eau et d'électricité. Donc, c'est à l'État de prévoir. Et prévoir, c'est aménager, c'est anticiper, c'est mettre les infrastructures avant et puis aussi travailler à ce que là où les populations sont actuellement, leur offrir le minimum de services pour qu'elles ne viennent pas, notamment dans les zones rurales. On sait que les zones rurales vont s'urbaniser. Ça, c'est inéluctable. Mais on peut gérer cette urbanisation de sorte que les populations ne viennent pas tout à Dakar.
Il y a un ministère, je le rappelle, chargé de l'aménagement du territoire, du cadre de vie. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on s'occupe plus de l'espace public dans les villes, les grandes villes, au détriment des zones rurales?
Il y a un service de l'aménagement, mais ce que je disais, c'est qu'on doit mettre l'aménagement au cœur de nos politiques publiques. L'aménagement, c'est quoi? C'est la planification spatiale. Il faut faire une planification économique, faire une planification sociale et faire une planification aussi spatiale. Mais cette planification, elle se fait en se projetant dans le futur. La planification, elle est souvent de moyen et long terme. Or, la plupart de nos projets et programmes, c'est des projets et programmes de court terme qui réfléchissent à des solutions d'aujourd'hui qui sont contraintes par le calendrier souvent électoral et qui font que souvent, on ne se projette pas sur les 15-20 dernières années. Aujourd'hui, nous avons le PSE, par exemple, qui est une vision à long terme d'ici 2035. Est-ce qu'on a accompagné ce PSE avec une vision territoriale qui fait qu'on réfléchit le pays en territoire qui soit viable et compétitif, comme, par exemple, on en parle avec l'octroi de la décentralisation, mais ce n'est pas encore mis en œuvre. Et je pense qu'en mettant en œuvre cet octroi de la décentralisation, en mettant en exergue les pôles territoires, peut-être que ça sera un début de solution à cette question-là, mais sous-jacente avec, évidemment, une planification spatiale.
Je rappelle que Dr Ibrahima Hatch est notre invité. Il est le directeur de la recherche de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale. Il est également le président du comité scientifique de la conférence régionale sur les changements climatiques et résilience de territoire qui se tient présentement à Dakar. Nous parlons de l'agriculture. Vous en êtes un acteur puisque vous êtes à l'IPAR. Alors, quels sont les comportements que peuvent avoir les agriculteurs en ce moment où il y a une reprise de la pluviométrie?
Alors, ça c'est une question relativement difficile. Vous savez que c'est l'un des problèmes que pose le changement climatique. Parce qu'avant, les paysans pouvaient planifier, pouvaient prévoir. Ils savaient que la pluie allait venir vers le mois de mai, le mois de juin, et que cette pluie allait s'arrêter en octobre. Donc on pouvait planifier. Il y avait rarement des périodes sèches, etc. Aujourd'hui, il y a une telle variabilité que même le début de l'hivernage, il est difficile de prévoir ce début. La fin de l'hivernage, on ne sait pas parfois. Il y a 2 ans de cela, l'hivernage s'est terminé très, très rapidement. Et tous ces éléments font que le paysan, il est quand même désarçonné, il est dans des difficultés. Comment l'accompagner pour faire face à cette variabilité? C'est ça une des questions de politique
agricole. Il y a les variétés hâtives, c'est vrai, mais aussi la question de la maîtrise de l'eau. Comment faire pour maîtriser cette eau?
Alors, la question de la maîtrise de l'eau, elle est fondamentale. Oui. C'est vrai qu'elle coûte, ça coûte cher, mais maîtriser de l'eau, ce n'est pas seulement irriguer à grande échelle. C'est aussi voir des irrigations à petite échelle. C'est aussi voir là où il y a les points d'eau et les exploiter. Par exemple, aujourd'hui, le PUDC est en train de travailler à mettre en valeur les forages qui sont mis en place pour non seulement les utiliser pour l'élevage, mais aussi les utiliser pour faire du maraîchage. Donc, exploiter cette eau-là pour faire de la production agricole et animale. Je pense que c'est une bonne voie et c'est la voie à suivre.
Merci beaucoup, Dr Ibrahima Hatch.
C'est moi qui vous.
Je rappelle que vous êtes le directeur de la recherche de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale, président du comité scientifique de la conférence régionale sur les changements climatiques et la résilience des territoires. Barthélémy Ngom, je vous rends l'antenne.